VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. La dépouille de Papa Wemba, le roi de la Wemba congolaise, est maintenant à Kinshasa, où des officiels et une foule immense l'ont accueilli ce matin à son arrivée à l'aéroport international en provenance d'Abidjan. Parmi les personnalités présentes à la descente du cercueil blanc recouvert du drapeau national, le premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo et le président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku. Le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Kwaku Bandama, avait personnellement accompagné la dépouille pendant le voyage. Le cercueil, embarqué ensuite dans un corbillard, a été conduit à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa dans un cortège encadré par la police. Le gouvernement congolais avait mis en garde hier contre toute récupération politique de l'événement. Pour les détails de l'hommage qui sera rendu à Papa Wemba lundi et ses obsèques officielles mardi, écoutons Baudouin Banza Moukalaï, ministre congolais de la Culture.
On va lever le corps officiellement lundi à 11h. On ira au stade des Martyrs. Toute la journée de lundi sera consacrée aux artistes, aux cinéastes, aux peintres, à beaucoup d'associations auxquelles Papa Wemba a appartenu. Les gens ont l'occasion de rendre hommage à leur illustre disparu. Ben, mardi, les officiels viennent pour rendre le dernier hommage et vers 13h, on ira l'enterrer.
Le ministre congolais de la Culture, Baudouin Banza Moukalaï, propos recueillis par Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Tchad, Amnesty International s'est alarmé aujourd'hui de la disparition d'une quarantaine de militaires et policiers à la suite de l'élection présidentielle du 10 avril remportée par le président Idriss Déby Itno. Des éléments des forces de l'ordre qui n'auraient pas voté en faveur du chef de l'État. L'organisation de défense des droits humains basée à Londres réclame l'ouverture d'une enquête indépendante sur ces disparitions. Au micro d'Éric Maniracusa. Plus de détails avec Balkissa Idesido, chargée de campagne d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar.
Nous avons eu à parler à certains membres des forces de sécurité et de défense qui avaient été arrêtés, violentés et détenus ce jour-là, le 9 avril. Donc ces personnes nous ont expliqué qu'en fait, bien qu'il y avait des isoloirs dans les bureaux de vote, ces isoloirs n'étaient pas utilisés. Donc il y avait un commandant de l'ANC et également un agent des services de renseignement qui, les deux se tenaient devant l'isoloir. Et quand ils voulaient rentrer pour faire leur choix, on les interpellait, on leur demandait est-ce que tu es policier, est-ce que tu es gendarme, est-ce que tu es militaire. Quand ils répondaient, on leur disait pourquoi alors tu ne veux pas voter devant nous? Voilà, nous sommes tous les mêmes. Donc quand ces personnes essayaient de résister, essayaient de vouloir quand même aller dans l'isoloir voter, dans un cas, il nous a dit qu'on lui a pris son bulletin de vote, sa carte d'électeur, et on l'a conduit directement en cellule. Certains nous ont reporté qu'il y en a qui ont osé voter devant ces deux personnes-là et qui ont été bastonnés.
Balkissa Idesido du bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar. Crise au Burundi maintenant, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a vivement condamné le nombre croissant d'attaques contre des hauts responsables dans le pays. Plus de précision avec Nani Talani.
Le responsable onusien cite notamment l'assassinat du brigadier général Athanase Kararouza et de sa femme lundi dernier, ainsi que la tentative d'assassinat contre le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, Martin Niviabondi, le 24 avril. Zeid Raad al-Hussein estime que ces violences doivent faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme et que leurs auteurs doivent être arrêtés et traduits en justice. Selon l'ONU, 31 personnes ont été tuées au cours d'attaques en avril. La grande majorité de ces attaques a été menée par des hommes armés non identifiés. Le haut commissaire aux droits de l'homme dit craindre que le nombre croissant d'assassinats ciblés n'aboutisse à une aggravation de la spirale de violence. Il a appelé toutes les parties à prendre part au dialogue prévu lundi à Arusha en Tanzanie afin de trouver une solution durable à la crise burundaise.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Niger. Le gouvernement nigérien a prorogé de 3 mois à compter du 28 avril 2016 l'état d'urgence de la région d'Ifa, dans l'extrême sud-est du pays, proche du Nigeria, en raison du niveau élevé de la menace posée par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Et toujours au Niger, l'opération Ville Morte prévue ce jeudi par les organisations de la société civile regroupées au sein du collectif Résistance Citoyenne a été très peu suivie. Les transports urbains et les centres commerciaux étaient en pleine activité durant cette journée ville morte qui visait à protester contre ce que le collectif qualifie d'instauration de la dictature dans le pays par les autorités nouvellement réélues. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Tous les transports urbains ont fonctionné normalement ce jeudi à Niamey. Il en est de même pour les grands centres commerciaux où la quasi-totalité des boutiques ont ouvert, au grand marché de la capitale notamment.
Je m'appelle Mokhtar Jibo Ali, j'ai ouvert. Parce que moi, je ne suis pas au courant des villes mortes, vraiment.
Et dans la ville, est-ce que les gens respectent le
monde? Dans la ville, tout le monde est dans son actif.
Je m'appelle Seyna Adamou, au grand marché Monego.
Je m'appelle Seyna Adamou, je suis au grand marché.
Je n'ai pas ouvert parce que j'ai respecté le mot d'ordre lancé par la résistance citoyenne. Et puis, je suis avec eux à 100%. Ce qu'on veut, nous ne devrons pas ouvrir parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce marché. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que nous sommes en Afrique, les gens sont ce qu'ils sont. Maintenant, je suis en partance pour la maison. Je suis venu juste pour voir ce qui se passe dans le marché. Et je suis prêt à observer cette ville morte, même si c'est demain.
J'ai pas été informé. Je n'ai rien comme information.
Ceux qui ont appelé à cette ville morte, ils disent qu'il n'y a pas de démocratie.
Ah, si on appelle l'histoire de la démocratie, nous sommes des commerçants. Hein.
Kimba Idrissa est responsable d'une des structures de conducteurs de taxi de la ville de Niamey. Dans son taxi, plein de clients, il regrette de n'avoir pas été associé au mouvement.
L'information n'a pas passé. Et au niveau même de l'organisation, vous savez que dans le secteur transport, aujourd'hui, le mouvement le plus organisé, surtout dans le transport urbain, c'est le collectif des syndicats du secteur de transport. Et malheureusement, ce collectif-là n'a pas été associé. Je déplore cela. Nous sommes de cœur avec la société civile. Nous sommes vraiment de cœur, à 100% de cœur. Mais quelque part, il y a un dysfonctionnement parce que le message n'a pas passé.
Au niveau du collectif, l'on reconnaît cet échec. Abbas Abdelaziz est un des responsables.
C'était une décision qu'on avait prise rapidement. Et vraiment, avec ces coupures intempestives courantes, et les gens ne suivaient pas pratiquement les télévisions, n'écoutaient pas les radios. Vous voyez, on a eu un problème de communication. Et en plus, de l'autre côté, le pouvoir a mis un mécanisme en place d'intimidation, de menace. Ce n'est pas à notre attente. On a voulu que ça soit mieux que ça. Ce n'est pas peine perdue. Quand même, il y a la prière de demain pour qu'il n'y ait pas la dictature au Niger. Et en plus, la marche de samedi.
Mercredi dernier, le collectif Résistance Citoyenne a publié une liste de 10 revendications pour justifier ses actions. Une d'entre elles est la démission de la Cour constitutionnelle ainsi que la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan jugera au mois de mai au juin Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, pour crime contre l'humanité. La cour de cassation ivoirienne a rejeté le 21 avril le pourvoi de Madame Gbagbo, ouvrant définitivement la voie à son procès. Actualité hors d'Afrique, en Syrie, au moins 18 personnes, dont 49 enfants, tués dans les pilonnages par des rebelles de 5 quartiers gouvernementaux à Alep, dans le nord. 20 autres victimes, dont 3 enfants, ont également trouvé la mort dans les raids aériens du régime de Bachar al-Assad contre 2 quartiers rebelles, dont celui très populaire de Bustan al-Qsar. Les précisions de John Lyndon.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé ce bilan. Les secouristes recherchaient toujours d'éventuels survivants sous les décombres. La veille, les raids avaient déjà causé la mort d'une trentaine de personnes, dont le dernier pédiatre exerçant dans le secteur rebelle d'Alep. Ces frappes ont notamment visé l'hôpital d'Al-Quds, Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge ont condamné l'attaque contre cet hôpital. Durant ces dernières 48 heures, un Syrien est mort toutes les 25 minutes, a dénoncé l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Il s'est dit convaincu que le cessez-le-feu, mis en place le 27 février sous l'égide de Moscou et Washington, pouvait s'effondrer à tout moment. Il a donc appelé mercredi soir les deux parents de cette trêve, devenus moribondes, de prendre une initiative urgente.
Et pour terminer au Kenya, 11 pyramides d'ivoire s'élèvent dans le parc national de Nairobi. Elles doivent être brûlées samedi devant les caméras en guise d'exemple de la lutte contre le trafic illégal des défenses d'éléphants.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.